Donc le sens de notre démarche ici a un but d'éveil, comme on le dit, une voie qui mène à l'éveil. Il y a naturellement ici un cadre tout à fait spirituel, contrairement à d'autres lieux. On peut se rendre compte du contexte dans lequel nous nous trouvons. Et cette voie de la pratique qui porte généralement sur la méditation, une évidence qu'il y a la méditation qui mène à la sagesse, à une plus grande compréhension de nous-mêmes, de notre dimension intérieure. Et l'enseignement, il est dit, reporte sur trois aspects. On peut dire qu'il y a trois aspects à la pratique. Le premier aspect est la vertu ou l'éthique. Deuxième aspect est la méditation. Et le troisième aspect est la sagesse. Donc, dans un certain registre, c'est évident qu'on donne beaucoup, beaucoup d'emphase et d'explications sur le processus de la méditation. Généralement, on parle de l'attitude méditative, on parle de différents aspects, la différence entre la pleine conscience et la concentration. Et je nomme tout ceci car nous allons certainement voir ces différents aspects et les exposer au long des 15 jours du temps qui nous est accordé ici. Mais j'ai eu envie ce soir de m'attarder pour une première sur la dimension de l'éthique, de la vertu. Car c'est le fondement. On comprend aussi que lorsqu'on a l'enseignement du Bouddha, vous avez certainement, si vous avez été présent dans un contexte bouddhique, qu'on parle des quatre nobles vérités et que la quatrième noble vérité est située au niveau du chemin, du cheminement. Et quel est ce chemin? Il y a huit branches. Et deux de ces branches comportent la sagesse. Donc il y a la compréhension juste ou appropriée, l'intention juste ou appropriée, c'est-à-dire de nourrir une intention qui porte à la sagesse, et ça c'est donc la sagesse. Il y a la dimension de la méditation qui comporte trois branches, effort approprié ou énergie appropriée, concentration appropriée et attention ou pleine conscience appropriée. Et puis il y a aussi ces trois aspects qui nous restent au niveau des huit, qui est la dimension du comportement, de notre manière de nous mettre en conscience, une pratique, et qu'il est évident que pour moi-même, en cet instant même, et depuis plusieurs mois, et vient vraiment particulièrement en éveil, si vous voulez, car il y a des situations de vie qui font qu'on se pose des questions. Des questions par rapport au monde, des questions par rapport à la violence, des questions par rapport au manque d'éthique, justement. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans quel contexte? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ceci individuellement? Donc, voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai médité sur la question, j'ai essayé de potasser un peu et puis je vous partage ce soir quelques dimension de réflexion par rapport à ce sujet qui, comme je vous le dis, dans un contexte de retraite, est abordé, mais peut-être pas aussi souvent que les deux autres. Et donc, comme on parle souvent on transmet, on parle d'un espace qui nous habite, j'ai eu envie de commencer la retraite par ce sujet. Donc, j'espère que il vous intéressera un tout petit peu aussi, et que vous allez pouvoir peut-être y trouver quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui paraît déjà important, c'est que le terme de moralité qu'on utilise extrêmement souvent n'est pas fréquemment utilisé. Et j'aimerais juste m'attarder sur ce sens, ce terme de sila, qui est le terme pour la vertu ou l'éthique, qui signifie une activité qui est mise à but en conscience. une activité qui est remplie en conscience. Et il est bien clair qu'il s'agit d'un engagement. Donc, non pas d'un point de vue, non pas d'une opinion ou d'un positionnement au niveau d'une réflexion, mais vraiment d'un engagement au niveau de l'activité, du corps, de la parole et de l'esprit. Donc, dans ce sens-là, il y a vraiment une pratique. Si vous voulez, on pratique naturellement la vertu. Et surtout, dans ce sens des huit branches du chemin, il y a un renouvellement de cet engagement et une mise en situation qui va nous éclaircir. Maintenant, le terme en lui-même, le terme de Sila, signifie rafraîchissement. Ceci rafraîchit l'esprit ou la paix, si vous voulez, le tranquillise, car naturellement, lorsqu'il y a un comportement de la sorte, l'esprit ou la conscience n'est pas préoccupé. N'est pas préoccupé dans le sens du comportement qui a pu être exercé. Donc, c'est un comportement aligné avec aussi la dimension de réduire certaines afflictions. Donc, il y a cette dimension d'être aussi aligné avec la réalité, un comportement qui est en lien avec la réalité, c'est-à-dire là où nous nous situons. Donc, dans ce sens, si vous voulez, en tant que premier fondement, il prépare celui qui va exercer le chemin de la méditation et qui va naturellement résulter en sagesse. Il prépare le chemin pour l'expérience de l'étape de la méditation. Donc, on peut dire que, quelque part, la vertu va nous soutenir que lorsque nous sommes en phase avec une expérience intérieure, eh bien, c'est évident que s'il y a une stabilité et que l'esprit est en paix, il va pouvoir, quelque part, atteindre son but. Quel est ce but? La sagesse. Ou la compréhension de ce qui émerge d'instant en instant. Maintenant, les enseignements parlent justement de ce chemin. On peut dire libération des afflictions mentales. Souvent, on voit le terme de pureté, donc de purification, qui, moi, me plaît pas beaucoup, mais c'est évident que toutes les afflictions mentales, telles que la colère ou toute forme de violence, de haine, est considérée comme une affliction mentale. Donc, dans ce sens-là, toute libération de ce type de manifestation peut être équivalent à purifier, quelque part, sa conduite et puis également son esprit. Donc, il y a deux sortes de pureté qui sont décrites. La pureté de la conduite qui vient d'une action consciente. C'est-à-dire qu'on applique la pleine conscience et à ce moment-là, l'action qui va s'en suivre va naturellement émerger au niveau de notre conduite. Donc ça, c'est la première des sortes de pureté. Et la deuxième, c'est la pureté de la sagesse qui vient de la compréhension juste. C'est-à-dire que quand on agit et qu'on a une pleine conscience pour agir, la conduite va naturellement nous aider à comprendre plus clairement ce qui se passe, ce qui se situe, et ces deux vont se relier et naturellement sont basés dans un chemin. Donc, elles ont besoin de se développer mutuellement. Dans l'octuple sentier, il y a trois aspects, comme je l'ai dit, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il est clair que dans notre vie courante, trois aspects où se situe notre comportement au niveau des actions physiques, des actions verbales et des actions de l'esprit. Donc, paroles appropriées, qui ne nuit pas, qui ne ment pas. Et là, on a vraiment la possibilité d'exercer ceci enfin, parce que moi, souvent, je me dis, mais cet aspect-là, il est impossible pour moi, parce qu'il est mention de faire cesser toute forme de bavardage. Donc, vous pouvez bien imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui sont inutiles qu'on dit et on s'attarde beaucoup sur des racontars ou des paroles vaines, si vous voulez. Et dans un contexte comme celui-ci, au moins, on est protégé dans ce sens-là, puisque nous sommes en silence. Donc, à chaque moment, je me dis, c'est extraordinaire, c'est un moment opportun dans un contexte comme celui-ci où vraiment on peut nourrir cette dimension du silence. Et d'ailleurs, il est appelé noble silence, hein, car il y a vraiment cette dimension de noblesse. Donc le Bouddha a dit, mais en fait, c'est assez facile au niveau de ce contexte-là, parler de manière à dire les choses qui sont vraies, authentiques et qui sont utiles. Voilà. Donc, si on veut en résumer, c'est ce dont il s'agit. Ensuite, il y a cette dimension d'action correcte dans l'octuple sentier, c'est-à-dire que c'est la conduite, si vous voulez, de s'abstenir de faire souffrir soi-même et d'autres êtres au niveau de nos actions. Et puis le dernier, c'est les moyens d'existence corrects. Ici, gagner sa vie de manière non éthique, c'est extrêmement intéressant parce que ces enseignements sont très anciens, comme vous le savez. Et on peut effectivement aujourd'hui constater que cette dimension-là est encore visible, malheureusement. Puis je ne vais pas m'attarder là, ce n'est pas du tout le sujet. Mais on peut avoir soi-même une réflexion sur ce domaine et où il se situe. Donc, cet aspect de Sila, d'une conduite consciente, si vous voulez, est vraiment porté dans une dimension d'attention. Une attention qui est claire et qui naturellement se porte vers la dimension du lien à autrui. Basée, je crois, vraiment dans un respect. Et. Que peut vouloir dire une vie éthique? Que peut vouloir dire une vie conscience? On chemine en conscience et bien sûr qu'il y a beaucoup d'interprétations et je crois que ce terme suggère une activité qui est naturellement favorable, régulière, mais là où il y a vraiment une prise en compte et on peut se rendre compte de l'enseignement, il y a beaucoup de sutras, c'est-à-dire de discours du Bouddha, où il est mention de son engagement conséquent sur un long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre vie et donc fait partie de notre chemin. D'où la possibilité de vraiment s'attarder sur cette question et un des autres termes qui est employé est le terme de droiture, de redresser ce qui est tordu. Donc, c'est-à-dire d'avoir une certaine droiture dans son esprit pour ensuite vraiment avoir une manière d'être en présence d'autrui et qui ne nuit pas. Et là, il est intéressant de noter aussi que le Bouddha a vraiment dit, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres contextes, qu'on est noble par nos actions et non par naissance. D'être noble vraiment dans le sens de nos actions. Donc, on a tous une possibilité à ce niveau-là de se développer. Dans ce sens. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, j'ai repris le livre que le Dalai Lama a consacré à ce sujet. Et je l'ai relu il y a quelque temps, ce livre qui m'est apparu tellement clair et intéressant par rapport au XXIe siècle. Et il a appelé donc ce livre L'éthique pour le nouveau millénaire. Et dans ce chapitre, Je vous le nomme si jamais vous voulez le regarder quand vous serez chez vous. Il est un chapitre qui s'appelle « Société moderne et quête de bonheur ». Société moderne et quête de bonheur. Et donc là, je vais citer le Dalai Lama à plusieurs reprises. Il dit « S'il est si simple d'être heureux, pourquoi avons-nous tant de mal à l'être ?» Et donc, il s'efforce de répondre à cette question. S'il est si simple d'être heureux, pourquoi avons-nous tant de mal à l'être ? Donc, une quête de sens, une quête d'engagement. Il dit « Le désir d'être heureux et de ne pas souffrir ne connaît pas de frontières. Il est inscrit dans notre nature humaine et à ce titre se passe de justification. Que nous aspirions au bonheur est un simple fait. Pourtant, l'aspiration au bonheur ne génère pas une logique du bonheur. Il ne suffit pas de souhaiter être heureux pour l'être ou le devenir. » Et le Dalai Lama pointe donc vers la cause de ce mal-être et il dit « De tout mal, il en est un auquel on peut remédier. La cause de ce malheur est le manque de soins apportés à notre dimension intérieure. » Le manque de soins apportés à notre dimension intérieure. Et il s'explique « Qu'ils nous viennent du dehors comme les guerres, la violence et le crime, ou qu'ils se manifestent au-dedans de nous sous forme de souffrances psychologiques et affectives, nos problèmes resteront sans solution aussi longtemps que nous continuerons d'ignorer notre dimension intérieure. » Alors, on peut se réjouir. Parce que le sens de la démarche ici, c'est justement d'être en mesure et de vous donner vraiment la possibilité que votre aspiration soit là. Je ne sais pas ce qui vous a motivé à venir pour cette retraite. Mais en tout cas, le sens de la démarche va tout à fait, que vous le souhaitiez ou non, dans le soin apporté à notre dimension intérieure. Donc, je peux que me réjouir de notre engagement ici, de ce sens de cette démarche, car il est vraiment clair qu'on chemine pour aller à l'inverse de l'ignorance. Et c'est vraiment cette ignorance de ne pas voir clairement, c'est ce terme-là qui explique quelque part que nous avons de la difficulté à mettre en œuvre ce qui nous fait du bien. L'ignorance. Donc, la cause de notre insatisfaction, si vous voulez, on n'a pas forcément besoin de parler de grands malheurs, mais la cause de l'insatisfaction au niveau existentiel, que les choses ne sont pas tout à fait comme on voudrait qu'elles soient, provient de ne pas voir clairement où se situe ce bonheur. Et donc, le sens de la démarche ici est réellement porteur de fruits dans le sens de nous éclairer. Il y a vraiment une dimension d'éclairage qui nous aide. Donc, le Dalai Lama dit « À n'en pas douter, il est nécessaire d'avoir une révolution. » C'est extraordinaire, parce qu'il parle vraiment d'un engagement. « À n'en pas douter, dit-il, et je le cite, une révolution s'impose. Mais pas une révolution politique, économique ou même technique. Ce siècle en a connu assez pour que nous sachions désormais qu'une approche purement extérieure ne saurait suffire. Ce que je propose est une révolution spirituelle. » Donc là, à nouveau, au sens large de dimension d'éthique ou de soins apportés dans un engagement de vie, l'éthique part d'une prise de conscience et ensuite une mise en action d'engagement de cette conscience. Eh bien, elle se situe au niveau de l'éclairage de ce qui se passe en nous-mêmes, en premier lieu. Et ensuite, la mise en application de ce choix. Donc, si on réfléchit bien, en tout cas, j'essaye de vraiment voir quelles sont les actions qui sont faites et combien elles peuvent porter à conséquence. Et à ce moment-là, il y a une dimension qui m'amène à pouvoir faire des choix. Et qu'on a toujours la possibilité de faire un choix si on est conscient. Donc, cette dimension de pleine conscience, d'action, est vraiment porteuse d'un choix qui m'amène à pouvoir prendre la responsabilité aussi de ces actions. Donc, ces choix sont fondés sur une attitude d'esprit qui, à un niveau très large, peut être d'une dimension de comportement heureux pour moi-même et pour autrui. Donc ça, c'est le Dalai Lama, il l'a écrit il y a plusieurs années. Et puis, ensuite, j'ai potassé, j'ai été voir d'autres sources, pas forcément bouddhiques, et je me souviens avoir lu une lettre, parce que je suis vraiment très inspirée de Martin Luther King, et il y a une lettre qu'il avait écrite en février 54. Et ceci se nomme « Redécouvrir des valeurs perdues » en 54. Donc, ça fait pas mal d'années, hein, quand même. Je veux dire, moi, c'est aujourd'hui que tout à coup, elle ne va plus. Il dit « Ce matin, je veux réfléchir avec vous au thème suivant, redécouvrir des valeurs perdues. Il y a quelque chose de faux dans ce monde. » D'intrinsèquement et de fondamentalement faux. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de regarder bien loin pour s'en apercevoir. La plupart d'entre vous partageront certainement mon point de vue. Et au moment où nous prenons le temps d'analyser les causes de la maladie de notre monde, bien des choses viennent à l'esprit. Nous commençons par nous demander si cela est dû au fait que nous n'en savons pas assez. Mais c'est impossible car en termes d'accumulation du savoir, nous en savons plus aujourd'hui qu'à n'importe quelle époque de l'histoire humaine. On en sait encore plus qu'à 60 ans. Les faits sont là pour le prouver. Donc il ne s'agit pas d'avoir plus de connaissances en mathématiques, en sciences, en philosophie. Pouvons-nous nous poser la question, est-ce dû à un retard scientifique ? N'avons-nous pas progressé en matière de science? Et là, il dit, c'est impossible, tant nos progrès scientifiques ont été étonnants ces dernières années. Il est donc impossible que ce soit parce que l'homme ne progresserait pas en science. Je crois que nous devons mener un examen beaucoup plus en profondeur si nous voulons trouver la cause véritable des problèmes de l'homme et des maladies contemporaines. Si tel est notre souhait, nous devons sonder les cœurs et les âmes. Le problème n'est pas tant que nous n'en savons pas assez, mais plutôt que nous ne sommes pas assez bons. Il est direct, hein? Le problème ne tient pas tant au fait que nous sommes à la traîne sur le plan scientifique, mais plutôt que nous le sommes sur le plan moral. Le problème majeur auquel doit faire face l'homme contemporain réside dans le fait que les moyens qui nous font vivre ont dépassé les raisons spirituelles qui leur donnent un sens. C'est pourquoi nous sommes pris dans un monde perturbé. Le problème concerne l'homme aux prises avec lui-même et son âme. Nous n'avons pas appris à être suffisamment gentils, vrais et sages. C'est la base du problème, car nous avons échoué à rendre le monde plus fraternel. Ceci est un vrai danger auquel nous pouvons remédier. Mes amis, tout ce que j'essaye de dire, c'est que si nous voulons maintenant aller de l'avant, nous devons revenir sur nos pas et redécouvrir quelques précieuses valeurs que nous avons perdues en chemin. C'est la seule façon de rendre ce monde meilleur. La seule façon d'accomplir cela, c'est de retrouver quelques précieuses et puissantes valeurs abandonnées en chemin. Donc, je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous entendez ces mots, mais moi, ça me donne vraiment une lueur de grande inspiration. Vraiment, de pouvoir se dire qu'on est non seulement dans un contexte qui nous porte, qui permet de vraiment aller à cette dimension intérieure, parce que les deux récits sont vraiment exactement du même ordre, exactement du merde, et venant de deux sources complètement différentes, mais en même temps que l'attitude intérieure, faire des choix, pouvoir avoir vraiment cette dimension de nourrir des valeurs intérieures, des qualités telles que la compassion, telles que l'attention, la prise de conscience, de vraiment être là pour pouvoir développer le sens qui va vers plus de liberté et qui fait qu'ensuite nous avons la possibilité de faire des choix de vie. Ici, qu'est-ce que nous avons développé ? Plus de clarté. Vraiment, beaucoup plus de clarté. Qu'est-ce qui m'entrave ? Quelle est l'affliction mentale ? Quel est le conditionnement ? Que ce soit des patterns personnels ou que ce soit au niveau des valeurs universelles, de vraiment se rendre compte de cette dimension d'impermanence, mais au niveau du vécu, nous relie vraiment à cette possibilité, ce potentiel de plus de liberté. Et dans ce sens, à ce moment-là, l'éthique est traduit comme un développement d'un comportement qui va dans le sens de la réalité, qui va vraiment nous nourrir au niveau de qu'est-ce qui se passe dans cette réalité et les valeurs qui vont naturellement aider ensuite autrui. Donc, plus de clarté. Nous relier à la réalité, c'est le terme de tibétain qui en réalité, j'ai cherché le terme équivalent de sila en tibétain, qui est tsulté, et qui signifie en réalité la règle ou le comportement aligné à la réalité, qui vraiment est rejoint la réalité. La réalité, elle nous amène à pouvoir voir la nature de l'esprit libre d'affliction mentale. Donc, c'est une inspiration que j'ai pour moi-même, que je partage et que vous prenez là où vous vous situez. Chacun a ses choix, chacun a ses raisons d'être ici. Et si vous avez envie vous relier à ce dharma, qui n'est rien d'autre que la pratique, et ouvrir des vannes, si vous voulez, dans le sens d'avoir des points de référence, on peut intégrer cette dimension si on en a l'envie. Comme dit le Dalai Lama à nouveau, il dit « Je souhaite le bienfait des êtres. » Je souhaite le bienfait des êtres. De pratiquer déjà pour pouvoir inclure non seulement notre dimension intérieure, mais que quelque part ça se relie et qu'on puisse ensuite que toute la compréhension. Et pour ma part, c'est extrêmement aidant en réalité, surtout quand ça vient difficile et qu'on a mal aux genoux et qu'on n'en peut plus. Et certainement aujourd'hui, il y a eu des moments comme ça où tout à coup, on se dit « mais qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a un tel changement et j'aimerais juste dire aux personnes qui débutent que la première journée est vraiment la plus difficile parce qu'il y a un comportement ». En retraite, qui est un mode retraite, j'aime bien l'appeler le mode retraite, qui est tellement différent de notre mode habituel et que, naturellement, après quelques heures de pratique, même le deuxième jour, troisième jour, on commence à avoir un esprit un petit peu plus stable et qui veut bien coopérer plutôt que ne pas coopérer. Et donc, les choses deviennent plus faciles. Mais pour ma part, je sais qu'au début de chaque assise, je fais de manière claire ce souhait que tout ce que je peux voir dans ma pratique que ça puisse enrichir non seulement mon être, mais que ce soit pour le bien des autres, de ceux que je vais rencontrer. Et c'est évident qu'à ce moment-là, l'élévation de la prise de conscience, eh bien, elle est tout simplement un petit peu plus claire. Et en plus, elle me relie aux autres. Car il y a de toute évidence, là aussi, on comprend mal, il y a une ignorance, il y a un tel individualisme aujourd'hui, mais ce n'est pas de l'ordre de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a vraiment de l'interdépendance et on le voit constamment, ce qui surgit dans un endroit affecte un autre. Dans ce monde globalisé, c'est une évidence. Je n'ai pas vraiment besoin de m'attarder là-dessus. Donc, ce qui m'affecte moi va affecter autrui et vice-versa. Donc, un sens de respect de ma pratique pour moi-même, mais aussi pratiquer pour le bien des autres. Maintenant, il dit, le Dalai Lama, dans un sens, c'est très bien d'avoir l'aspiration, de souhaiter le bienfait des êtres. Maintenant, pour pouvoir agir de façon à faire naître et vraiment découvrir la dimension de ce que ceci peut vouloir dire au niveau de nos actions, nous avons besoin de repères et de références. Et que donc, des repères et des références vont nous aider à savoir dans quel sens on chemine. Un état d'esprit à partir duquel nous prenons des engagements. Donc, la pratique spirituelle est l'engagement. Notre pratique ici, la dimension de ce qu'on découvre et ce qu'on va naturellement développer, est notre engagement. Je crois qu'il n'y a pas de plus fort engagement quant à la situation dans laquelle nous sommes, où nous donnons vraiment de manière intensive, je vous l'accorde, pour un cheminement qui a aussi, si on le souhaite, son fondement dans une dimension altruiste et non pas uniquement pour nous-mêmes. Maintenant, cette dimension justement d'éthique, si vous voulez, elle ne se base pas du tout dans la croyance. Il ne s'agit pas d'avoir, même dans ces enseignements, un besoin d'être lié à la foi bouddhique. Et il le dit très justement, elle ne concerne pas ceux qui croient en une religion, de sorte qu'on peut parler à cet égard de spiritualité laïque. La révolution spirituelle que je préconise n'est pas une révolution religieuse. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'importait guère qu'un être soit croyant ou non. Ça, c'est assez révolutionnaire quand même de la part d'un être comme lui. Il est beaucoup plus important qu'il soit bon. Il s'agit d'une prise de conscience radicale qui fait de nous les artisans de notre bonheur et de ce fait, un bonheur qui pourra porter bien plus loin que au bienfait de notre propre personne. Donc, il y a cette dimension d'interdépendance, d'être un artisan et que vraiment, dans ce registre-ci de spiritualité, si vous voulez, la dimension d'une réciprocité dépend beaucoup de nos actes. Et les actes qui sont nés dans une pleine conscience et bien sûr, pratique de la bienveillance, que, je le mentionne ici, nous allons exercer demain après-midi. Donc, on sait très bien qu'on a la pratique de métta, qui est la bienveillance, mais également celle de la compassion. Et on verra qu'on va pouvoir vraiment être relié au niveau de notre réalité, mais la dimension aussi est justement du cœur. En profondeur, les êtres ne voient pas que tous leurs intérêts convergent. À partir de là, une qualité de conscience qui a pour but le bonheur, le sien et celui d'autrui, peut percevoir les points communs plutôt que les différences. C'est-à-dire ce qui nous relie, bien sûr, plutôt que ce qui nous sépare. Et ça, je crois qu'il n'y a pas meilleur cheminement que le cheminement de la dimension intérieure. Quand on perçoit vraiment au niveau de notre être, de notre essence, si vous voulez, de notre nature propre, cette dimension de contact et ô combien nous sommes semblables. Les différences, elles se situent à d'autres niveaux. Bien sûr qu'on a des opinions différentes, on a des points de vue différents, on a des goûts différents, mais au niveau de notre nature essentielle, il y a là vraiment un registre tout à fait semblable, et ceci est de l'ordre de la compréhension juste. Et dans un contexte comme celui-ci où nous sommes en silence et où on développe des qualités tout à fait semblables les uns les autres, on peut sentir dans l'énergie du silence justement. C'est le silence qui permet de toucher cette dimension de valeur et de nous relier au-delà des idées et au-delà justement des paroles. Il y a vraiment cette possibilité de créer quelque chose ensemble. Et c'est ce qui se passe en retraite. Et je crois que si on revient, et comme je crois Charles l'a dit hier soir, c'est assez merveilleux parce qu'on vous dit, revenez, c'est bien d'approfondir, persévérer et autres. Et ô combien c'est agréable de voir qu'il y a beaucoup de personnes qu'on connaît. Et je le dis aussi puisqu'il l'a dit. Donc l'enrichissement d'une dimension comme celle-ci, de prendre un temps et s'arrêter un petit peu pour justement nourrir, car il s'agit vraiment de nourrir notre cœur, notre être en profondeur, d'y voir plus clair, de discerner la confusion de la clarté, d'avoir du discernement. Et c'est vraiment là que se situe tout le cheminement. Donc, il y a de manière naturelle une joie, mais une joie tranquille, une félicité, si vous voulez, authentique, qui naît de cette qualité de pleine conscience ou de comportement qui vont nourrir des qualités qu'on a tous. On a tous ces qualités. La qualité de la prise de conscience, de la tolérance, de l'humilité, du respect. Tous les êtres les ont. Donc, elles fleurissent tout simplement d'une manière beaucoup plus claire. Et donc, le Dalama, juste pour terminer, dit « Le comportement éthique nous permet d'être en adéquation à la fois avec notre bonté fondamentale et avec la vraie nature des choses et des êtres. » Donc, la bonté fondamentale, la qualité de bienveillance, et voir la nature des choses comme elles se situent, c'est tout le sens de Vipassana, de cette vision pénétrante, vision profonde. Gandhi dit très clairement, le pouvoir de la vertu est immense. Il pourrait changer le monde. Le pouvoir de la vertu est immense. Il pourrait changer le monde. Donc, on a ça à cœur. Et ce qui entrave généralement une qualité de potentiel de nourrir cette dimension-là, c'est souvent, en tout cas pour ma part, que très vite, très rapidement, on a une estimation. On évalue son comportement. Et on est empli de jugements, critiques bien sûr, par rapport à tout ce qui manque dans le sens de ce qui est proposé. Donc, c'est évident que là, on nourrit que ce qui nous afflige. Et on peut très mal entendre les mots qui viennent d'être dits. L'auto-jugement, l'autocritique n'est vraiment pas de bons conseils. Donc voilà pourquoi peut-être on hésite de parler de ces sujets. Parce qu'on se dit, oh mon Dieu, mais quelle horreur, j'y arriverai jamais avec tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, tout ce qui manque, tout ce qui est faux. J'en ai plein des actions qui peuvent être apparentes d'actions qui ont émané d'un espace d'ignorance ou d'un comportement qui n'a pas été un comportement éclairé. Si on s'attarde à ça, il n'y a pas d'évolution possible. Donc là aussi, il y a un choix à faire. Et je crois que c'est très important de choisir justement le chemin de la réconciliation. Et la pratique de la bienveillance est exactement proposée pour ceci, ou de la compassion. C'est cette dimension de pouvoir vraiment à nouveau se dire le passé est passé, et de cheminer par rapport à où on se situe aujourd'hui. Et que c'est porteur de fruits. Car trop souvent, on a cette manière vraiment très évidente, et surtout en Occident, en Orient, il n'y a pas vraiment cette dimension-là, de gamberger et vraiment, quelque part, de s'auto-flageller dans les choses qui n'ont pas été justes. Et donc ça, c'est une emprise. Il y a là un positionnement qui n'est pas correct. Donc, changer de cap, ça signifie de pouvoir voir aussi tout ce qui est bénéfique et de nourrir le bénéfique, de vraiment aller au sens du respect de soi et vraiment dans le sens de se respecter. C'est comme ça que moi, j'ai eu cette possibilité d'une beaucoup plus grande tolérance, à me rendre compte que la haine que je nourrissais, car vraiment c'est un exemple que je vous donne parce que je l'ai vécu, la haine que je nourrissais ne faisait que renforcer un comportement égocentrique. Et que le fait de percevoir ceci et de me rendre compte de la douleur qui émergeait de ce comportement néfaste, nuisible, ne pouvait que laisser germer encore plus manifestement donner un fruit qui est pas celui qu'on souhaite. Donc de pouvoir vraiment ouvrir, élargir notre perspective et aller dans le sens du respect de soi et d'avoir une tolérance et de commencer à vraiment nourrir un autre type d'attitude. D'avoir des gestes de bienveillance. Pas seulement des pensées, mais des gestes de bienveillance. Et aussi ici, nous allons pouvoir nous nourrir de cette bienveillance. Donc, c'est un travail toujours en cours. Hein. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de figé, mais vraiment une possibilité de quelque chose qui nous vient de l'ordre d'une intention, et c'est pour ça qu'il y a la dimension de la sagesse, mais qu'on s'enrichit en chemin à chaque fois qu'on va pouvoir découvrir quelque chose qui nous aide et qui nous porte dans le sens souhaité. Donc, voilà, à partir de demain matin, nous allons aussi avoir, donc, mis à part la pratique de la vertu ou de l'éthique, qu'on peut bien sûr nourrir comme on le souhaite. Comme vous le savez, en retraite, il y a pour une personne dite laïque un soin apporté à notre comportement et la façon dont on peut vivre aussi de manière protégée, puisqu'on est en silence. Et il y a quelque part un comportement qui nous protège. On est dans une salle ici, on est nombreux dans cette retraite. Et donc, il est bien simplement de situer de quoi s'agit-il, de se respecter les uns les autres, surtout, de respecter la manière dont on vit ensemble. Je crois que c'est vraiment là le sens. Dans une manière très claire, il y a le respect de ne pas nuire aux autres, bien sûr, le respect de la vie, hein, protéger la vie au sens large. Il y a aussi le respect de se satisfaire de ce qui nous est donné. Donc là, c'est extraordinaire ce que ça peut vouloir dire, ceci. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup de droits. Je trouve que ça aussi, c'est quelque chose que j'explore. C'est vraiment tout de l'exploration. Mais on a des droits et on a de plus en plus de droits. Mais on a aussi, dans ce sens d'éthique et de comportement, s'il y a des droits, il y a des devoirs, il y a une responsabilité. Ça va de pair. Donc, il y a un engagement. Ce qui implique qu'à ce moment-là, on peut vivre de manière un petit peu plus claire et cohérente. Et donc, on perçoit très clairement qu'on est dans une communauté où on va s'entraider. Et c'est très, très simple dans le sens de l'usage de ce lieu et comment on se comporte les uns vis-à-vis des autres. Après, il y a donc cette dimension très claire de la parole correcte, mais ici, c'est tout à fait simple puisqu'on est en silence. Donc, de vraiment conserver. Et ça aussi, c'est un signe de respect, de pouvoir vraiment prendre. C'est une règle d'or, comme vous le savez, dans nos retraites. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-ci, on insiste sur cette dimension de rester en silence. Toute forme de parole ne fait qu'agiter l'esprit. Et si on veut vraiment approfondir un petit peu notre compréhension, eh bien, il faut aller à la dimension intérieure. Et ça porte, c'est vraiment aidant. Donc, dans la mesure du possible, de respecter ceci. Et puis, de conserver donc l'énergie pour la pratique de manière claire dans la vie. On peut aussi comprendre que il y a dans un de ces comportements, c'est notre manière de nuire. Et ô combien c'est visible dans notre monde aujourd'hui que l'énergie sensuelle, voire sexuelle, peut nuire à autrui. Combien d'êtres sont vraiment dans un positionnement de. D'être en mal avec un comportement qui est nuisible. Donc, ici, toute l'énergie est naturellement portée sur la pratique. Et finalement, de garder l'esprit le plus clair possible, lucide, donc de ne pas prendre de substances toxiques, qui ne veut absolument pas dire s'abstenir des médicaments que vous prenez et qui sont nécessaires. Donc, dès demain matin, nous allons donc prendre les refuges, une autre pratique qui est une pratique. Ce sont des pratiques. La pratique du refuge est une pratique extrêmement bénéfique. D'autant plus aujourd'hui dans un monde aussi trouble, tourmenté, chaotique, incertain. Et donc, quand on comprend le terme de refuge, on peut dire havre de paix, havre, un abri. C'est évident qu'on cherche des refuges extérieurs. Et là, lorsqu'on parle de refuge, ce sont des refuges intérieurs. Et donc, la capacité de pouvoir vraiment avoir à l'esprit, si vous voulez, une qualité qui permet de développer nos valeurs et nos qualités intérieures, cette dimension intérieure, de pouvoir prendre refuge sur les qualités plutôt que sur les afflictions mentales et de les nourrir. Donc, il y a bien sûr le Bouddha, c'est une référence extraordinaire, une source d'inspiration immense, mais il y a également cette dimension de refuge plus intérieur. Ensuite, le deuxième, le refuge dans le dharma, donc l'enseignement, qui est très clair. Et là, j'ai tellement de reconnaissance, mais tellement de confiance dans ce dharma, où qu'il soit situé, il y a vraiment toute une dimension de la pratique et qu'il est un exercice. Donc, une mise en application. Et c'est ça qui rend sa valeur aussi extraordinaire, c'est qu'on peut le mettre en pratique, pas uniquement y réfléchir, mais qu'on exerce la dimension pratique. Et ensuite, donc, cette extraordinaire capacité de prendre refuge dans la sangha, donc une communauté d'êtres éveillés tout d'abord, des personnes, de prendre refuge dans toutes les personnes qui ont vraiment atteint l'éveil, il y en a. Et en plus, il est possible ensuite de soutenir ce refuge, prendre refuge dans la sangha que nous sommes, de vraiment avoir un sentiment de soutien des uns des autres Et c'est évident qu'un groupe comme celui-ci, eh bien, c'est un grand groupe, il y a de l'énergie. Donc, si vous n'avez pas envie de marcher à l'extérieur, il y aura toujours une personne qui sera en train de marcher, je suis sûre, et qui va vous donner un petit soutien d'inspiration par rapport à rester en lien avec la dimension de la pratique. Donc, relier notre pratique au Bouddha Dharma Sangha, on va donc les prendre, ces refuges. À la fin de la méditation, de la première méditation, juste avant le petit déjeuner. D'accord? Donc j'apporterai les feuilles et ce lien renforce quelque part la base de confiance. Maintenant, cette confiance, elle est vraiment dans le sens de voir et à nouveau et non pas de croire. C'est le chemin est ouvert pour celui qui voit. Et donc, il y a vraiment cette dimension de voir en tant que vision pénétrante et qui est basée dans la clarté. Et de ce fait-là, c'est extraordinaire de pouvoir y voir de plus en plus clair. Donc voilà, je dirais un ou deux mots encore demain matin. Mais j'aimerais terminer ce soir avec juste un mot du Bouddha qui dit, en fait deux citations, il dit, ô bhikkhu, il s'adresse à ses moines, mais en réalité il s'adresse à nous tous, on peut dire méditants, je dis que la destruction des afflictions mentales est l'affaire d'une personne qui sait et qui voit clairement, et non d'une personne qui ne sait pas et ne voit pas. Donc, dans le sens de voir, on va bien sûr expliquer ceci, c'est dans le sens de la sagesse, de voir la réalité et notre comportement en lien avec la réalité. Voir signifie la vision pénétrante, au-delà des concepts. On est situé très souvent dans les concepts. Il s'agit ici de l'expérience directe. Donc voilà ce qui est proposé. Et puis, la deuxième, si vous voulez, citation, c'est en rapport avec en fait beaucoup de personnes qui demandent à s'engager au niveau du monde, qu'effectivement, on sent très bien que tout le monde se questionne. Et j'ai été enseignée dans un autre pays il n'y a pas très longtemps, et puis c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de jeunes à cette retraite. Et forcément que la question est venue, mais enfin, passer autant de temps sur soi, est-ce que ce n'est pas un acte égoïste, égocentrique? Et puis, ben voilà, j'ai parlé un petit peu dans le sens de la dimension intérieure, pourquoi on la cultive, puis tout ce que j'ai aussi expliqué ce soir. Et j'ai dit, ça n'empêche pas qu'on ait un engagement social et d'activité, que ce soit ben, pour l'écologie, si on est vraiment porté à vouloir aider soit nos amis les animaux, soit l'écologie, soit toute autre action qui forcément va dans le sens d'une aide. Mais la pratique contemplative est vitale. Donc prendre soin de sa dimension intérieure nous permet en plus d'agir ensuite de manière un peu plus consciente, comme tout l'exposé de ce soir. Et donc je vais terminer avec une petite citation qui a été manifeste écrite dans la newsletter de l'Insight Meditation Society où j'enseigne. Et donc on reçoit chaque semaine une citation de quelqu'un. Et il y a Larry Rosenberg qui est un enseignant de longue, longue date. Il vient de prendre sa retraite en tant qu'enseignant de méditation. Donc vous voyez que les enseignants prennent leur retraite. Donc on peut aussi se réjouir. Et il a écrit un petit mot pour dire au revoir. Il a enseigné à l'AMS pendant des années. Des années, c'était vraiment quelqu'un un pilier de ce centre. Donc à Boston, hein, là où j'enseigne, enfin à Barry plus précisément. Et je vais terminer l'enseignement de ce soir en le citant pour honorer aussi tout le travail qu'il a accompli dans dans la voie du cheminement vers l'éveil et toute sa dédication à autrui. Dit la pratique contemplative est vitale, avant et pendant l'engagement que nous pouvons porter à la dimension sociale pour notre société. Je demande à mes étudiants, avez-vous pris soin de votre avidité? Avez-vous pris soin de la colère qui est encore en vous? Travaillez sur ceci en premier. Et de cet espace, toute action que vous pourrez entreprendre pour autrui sera bien plus efficace, sera bien meilleure. Donc voilà, c'est vraiment pour accentuer le fait de l'importance et du grand cadeau, je trouve, que l'on se fait d'être ici. Et il est possible que par moment, on perde un petit peu le sens de la pratique et la profondeur de la dimension. Et certainement que ceci a pu être le cas un premier jour de retraite. Donc, je vous encourage à continuer.